cocktail Molotov avant que les tirs à l'arme lourde ne commencent. C'est la guerre que filme Romain Gavras, la guerre civile en France.
Tu comprends pas qu'elle a commencé déjà la guerre ?
6 ans après le meurtre d'Adama Traoré, Athéna Carbu.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous
j'aurais choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission Impromptu littéraire et nous recevons aujourd'hui, avec Anne, Michel Perraudeau, accompagné de Florence. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Michel, originaire de Vendée, tu habites Angers. Tu as été instituteur, puis maître de conférences à l'Université de Nantes. Tu as publié plusieurs ouvrages de pédagogie, mais tu es aussi essayiste et historien avec de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de la Vendée, de l'Anjou, du Poitou. Et nous te recevons aujourd'hui justement pour nous parler de sorcellerie. Ou plus exactement, d'accusation de sorcellerie en Poitou, puisque ton ouvrage, paru aux éditions La Geste, s'intitule très précisément « Deux sorcières en Bas-Poitou ». Alors Michel, deux sorcières, et pourquoi t'être penché justement sur le cas de ces deux femmes accusées de sorcellerie en plein milieu du XVIIe siècle ?
Alors merci pour ta question. Il s'agit de deux femmes du peuple qui ne savent ni lire ni écrire, qui n'ont probablement pas de métier, qui vivent dans un quartier qui, à l'époque, était un quartier, on dirait, malfamé, abritant des gens souvent n'ayant pas d'emploi, et qui se sont retrouvés, bien malgré elles probablement, dans un procès, les concernant, accusés de sortilèges. Alors sortilèges, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, mais sortilèges, ce sont des jeteurs de sorts. et on imagine que les sorts qui sont jetés sont maléfiques. Alors, il se trouve que ce sont des gens de ma famille, puisque quand on a remonté l'arbre généalogique, on est allé jusqu'à ces deux personnes. L'une, la mère, qui a une cinquantaine d'années à l'époque, on est en 1644. Marie Perraudeau, et sa fille, qui est avec elle également en procès, s'appelle Françoise Métayer. Mais à l'époque, quand quelqu'un était marié, elle portait souvent le nom, le patronyme de sa famille. Donc, dire juste un mot de l'époque, parce que le XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le grand siècle, c'est le siècle du palais de Versailles, c'est le siècle de Mazarin et de Richelieu, enfin Richelieu et Mazarin, c'est le siècle de Louis XIII et de Louis XIV, mais ce procès a lieu en 1644, c'est une période un peu instable, parce que je rappelle que Louis XIII est mort en 1643, que son fils a 5 ans, et que c'est donc Mazarin qui a le véritable pouvoir. Donc c'est une époque extrêmement difficile, la sorcellerie bat son plein, les procès en sorcellerie battent leur plein, et surtout, les bûchers flambent un peu partout. Voilà le cadre général de cette affaire.
Merci pour cette présentation. Nous allons suivre le fil de ton livre et écouter quelques passages lus alternativement par Anne et Florence.
Pour les affaires liées à la sorcellerie, les procédures étaient engagées par la justice laïque et non plus par les instances ecclésiastiques. Selon la procédure suivait un rituel bien organisé. Il y avait la phase d'information sur la personne soupçonnée ou désignée comme pratiquant la sorcellerie. Avaient à dire, ce qui pouvait relever d'une conduite spontanée, mais qui pouvait aussi être une parole provoquée. Les magistrats étaient en capacité de susciter, souvent dans le voisinage, des témoignages à charge. En recueillant différents éléments, le juge dégageait les débuts de preuves qui l'accompagnaient. L'accusé était arrêté et emprisonné. Les interrogatoires commençaient. Et la question, comme se nommait la torture légale, était appliquée moins pour recueillir des aveux que pour obtenir le nom des éventuels complices.
...1644 par un jugement qui fait froid dans le dos.
Ars est brûlé sur un brasier qui sera à cette fin dressé dans le pré de la dite ville et Icel Métayer, pendu et étranglé à une potence qui pour cet effet sera dressée au dit lieu, son corps mort, brûlé et réduit en cendres. Avant la question ordonne qu'Icel Perraudeau sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de leur complice et, en outre, condamner ensemble ladite et Métayer la fille à 40 livres d'amende envers le roi, qui seront prises sur elle et sur son feu mari.
Appliqué concernant l'interrogatoire.
De la question, afin de donner le nom de ses éventuels comparses. Quels furent les supplices qu'elle endura alors qu'elle avait un âge déjà avancé? À combien de reprises dut-elle en subir? Qu'a-t-elle fini par avouer? Donna-t-elle le nom des complices? Les questions demeurent à jamais sans réponse. En revanche, et quatrième, il est possible d'avancer quelques éléments, puisque les actes du jugement en appel donnent les éclairages sur ces points. Sur la Sellette, à Paris, le 5 janvier 1645. Marie Perraudeau nia tout ce qu'elle avait pu avouer sous la torture à Fontenay. À commencer par le fait qu'elle n'a rien appris à sa fille. Marie Françoise et ne lui a donné aucune poudre magique. Il semble qu'au procès, elle ait avoué le contraire sous l'effet de la torture. Elle affirme n'avoir jamais fréquenté de sabbat, qu'elle n'a pas dit que le diable faisait rôtir des animaux et même n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec le diable. Ce qu'en première instance, on lui avait fait avouer sous les effets des supplices physiques. Et connu charnellement le diable, sont des aveux souvent rencontrés dans ce type de procès. La relation avec Satan constituait la preuve absolue de la dimension démoniaque, donc hérétique, de la sorcellerie. La purification par le feu du bûcher était la peine obligatoirement requise, celle que conseillaient les livres de référence. Une fois dégagée de toute pression liée à la torture, Marie peut rétablir la vérité des faits par la vérité des dires. Également évacué assez rapidement. Le tribunal de Paris conduit à une évidence de complice. Il n'y eut pas.
Françoise échappe donc au bûcher et à la potence. Premier procès. Quelqu'un a interjeté appel ?
Probablement quelqu'un a interjeté appel, mais on ne sait pas qui. On est obligé de se réfugier dans des hypothèses. D'une part, il est certain que ce ne sont pas les deux femmes, puisque l'une et l'autre ne connaissent rien à la machine judiciaire. Et d'autre part, pas dans la capacité de mener un débat ou de revendiquer quoi que ce soit. En revanche, personne qui aurait pu interjeter appel. L'une s'appelle René Moreau, c'est le curé de la paroisse, qui est un curé assez singulier, très proche de ses paroissiens, qui en plus est érudit, il a fait des études en Sorbonne, il est le secrétaire de l'évêque, donc c'est une personnalité. Il a des relations, incontestablement, on dirait maintenant un réseau, et peut-être que grâce à lui, cet appel a été lancée, qui ensuite a abouti, puisqu'elles ont été entendues à Paris. Alors je rappelle que nous sommes à Fontenay-le-Comte, qui dépend de la sénéchaussée de Poitiers, mais que pour tout ce qui est appel, c'est le tribunal de Paris qui va juger. Donc ça c'est la première hypothèse. Le curé, peut-être, qui est considéré comme quelqu'un qui est très, très proche de ses paroissiens, peut-être est-ce lui qui a opéré. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Je pense plutôt que c'est la deuxième hypothèse que je vais avancer. Il semble que ça soit le procureur qui a interjeté appel. Alors ça paraît paradoxal de penser que le procureur, celui qui a requis, dont la réquisition a été redoutable, puisqu'il a condamné, il a fait condamner au bûcher, et il se trouve que dans les archives départementales, j'ai trouvé un élément qui me fait plutôt pencher pour cela. J'ai trouvé le fait que un fils de Julien Collardeau, c'est-à-dire le procureur, en 1622, a été le parrain à la naissance d'un fils de Marie Perraudeau. Or, c'est assez paradoxal de voir que ces deux familles, l'une appartenant à la classe des pauvres, qui n'a aucune relation avec qui que ce soit, et l'autre, qui au contraire appartient à la bourgeoisie, à la haute bourgeoisie, on est chez les Collardeau, on est procureur de père en fils, on est maire de Fontenay-le-Comte, etc. Eh bien, c'est assez paradoxal que ces deux familles soient en relation, soient en lien, et probablement des liens de proximité et des liens de confiance pour que l'un accorde que son fils soit le parrain du fils de l'autre. Donc, mon hypothèse, c'est que les deux femmes, au moins Marie Perraudeau, a ou ont travaillé pour les Collardeau en tant que bonne à tout faire, que des liens se sont créés ainsi, des liens de confiance, qui ont abouti à ce qu'à la naissance de l'enfant de Marie, ça soit un des fils Collardeau qui devienne son parrain. Ce qui fait que, au fond, le procureur était dans une situation particulière, à la fois chargé d'appliquer la loi, et en même temps, connaissant la personne, peut-être faisant preuve d'une certaine magnanimité. Mais à ce moment-là, que s'est-il passé? Eh bien, je pense qu'il a appliqué la loi durement, mais qu'ensuite, il a permis aux deux femmes d'avoir la chance d'un second procès, de façon à ce qu'elles puissent s'en sortir, parce qu'en plus, il savait très bien, on en parlera peut-être tout à l'heure, il savait très bien que les sentences du tribunal du Parlement de Paris n'avaient rien à voir avec celles de Fontenay-le-Comte, et que par conséquent, elles auraient plus de chances de s'en sortir à Paris qu'à Fontenay-le-Comte. Voilà mon hypothèse, naturellement, ce n'est qu'une hypothèse.
Marie et Françoise Métayer font partie des 97,5% des accusés qui conservèrent la vie grâce au jugement parisien. La nouvelle sentence est mentionnée dans l'arrêté du 30 janvier 1645. Si elles furent graciées de la peine capitale, c'est en raison du fait que les juges parisiens considérèrent les accusations de la sénéchaussée fontenaisienne comme peu crédibles. Ceci constitue à la fois un désaveu de la juridiction provinciale et la volonté de décriminaliser les faits supposés de sorcellerie. La Cour implicitement et avec beaucoup de lucidité que l'accusation de sorcellerie recouvrait davantage règlement de compte et charlatanisme que magie maléfique et satanisme. Seconde La plus jeune des deux femmes, Françoise, se voit élargie, sans autre forme de pénalité, alors que sa mère, Marie, est bannie de la sénéchaussée à partir de février 1645 pour une durée de 5 ans.
Parlons maintenant, grâce à ton ouvrage, du contexte général dans lequel se situe cette affaire.
L'histoire suit un cheminement tortueux et douloureux qui traversa une certaine indifférence médiévale pour se jeter dans la répression à partir de la Renaissance, puis trouva progressivement un apaisement à compter de la seconde moitié du XVIIe siècle. Le sorcier, qui était jusqu'au XVIe siècle une sorte d'hérétique religieux, devint progressivement un dissident social, un rebelle politique, le symptôme d'une société se désorganisant. Lorsque l'ordre vacilla, le système se montra intransigeant avec les fauteurs de troubles. À la différence de la religion qui sanctionne, mais comprenant la rémission, reste capable de pardon, la justice punit avec la froide objectivité des règles de loi. Alors la justice, se voulant impartiale et impitoyable, se mit en devoir de châtier sans faiblir tous les égarés et de les éliminer pour l'exemple, mais aussi pour le salut de la société.
La traque des sorciers devint donc aussi un fait politique.
Oui, alors il faut rappeler que l'Inquisition, c'est une affaire qui est ancienne, ça date de 1232. C'est le pape Grégoire IX qui décide de lutter contre les hérétiques de façon violente, en disant ils doivent passer en procès, et s'ils ne veulent pas passer en procès, il faut employer la matière forte. C'est-à-dire qu'on va les forcer à changer d'idée et à rester dans le droit chemin de la religion. Donc on voit bien qu'il y a la volonté chez ce pape et les suivants d'avoir un ordre religieux qui soit un ordre qui est celui de l'ordre du pape, l'ordre du Vatican, on va dire. Et puis, on voit au fil des années qu'il y a une modulation par rapport à ça. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire que les tribunaux d'inquisition se ramollissent, mais enfin, il y a une sorte de laxisme qui est constaté et qui fait que le roi devient très inquiet parce qu'il se dit, mais si la religion ne fait pas son boulot de rester dans l'ordre, qui le fera? Eh bien, ça sera nous. Et donc, petit à petit, le politique va prendre le pas sur le religieux. Et ce sont des tribunaux des sénéchaussées, c'est-à-dire des circonscriptions dans les provinces, qui vont à leur tour devenir les lieux de jugement. Je rappelle quand même qu'en 1431, Jeanne d'Arc est brûlée, considérée comme blasphématrice, c'est-à-dire que le blasphème, à ce moment-là, est un crime qui doit être puni comme tel, que quelques années plus tard, en 1440, Gilles de Rais est également condamné pour apostasie hérétique. Alors, j'ai retenu ici que ce qui est directement en lien avec la religion, hein, pas d'autres crimes, mais la religion est quand même présente. Et c'est au nom de la religion que l'État, si on peut parler d'État à ce moment-là, en tout cas la monarchie, va juger. Hein, on voit bien le lien qu'il y a entre les deux, le passage qu'il y a, mais en même temps, le lien qu'il y a entre les deux. En Poitou, sénéchaussée, celle de Poitiers, donc la capitale du Poitou, qui est la plus importante, et celle de Fontenay-le-Comte, qui est la deuxième ville la plus importante du Poitou à ce moment-là, capitale du Bas-Poitou. Et on s'aperçoit que les actes de procédure sont à 95% des condamnations au bûcher. C'est-à-dire qu'une personne qui est considérée comme sorcier ou sorcière, c'était souvent d'ailleurs des femmes, donc des sorcières, les sorciers étaient souvent des sorcières, sont condamnées à 95% au bûcher. Alors que, comme on le disait tout à l'heure, comme vous le soulignez tout à l'heure, à Paris, c'est l'inverse. Alors, ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas condamnés au bûcher ne sont pas pour exempts de quoi que ce soit. Et bien souvent, ce sont des hommes, des sorciers, et bien souvent on les retrouve aux galères, ils sont condamnés aux galères. Alors, je ne sais pas quel est le plus plaisant, d'être condamné au bûcher ou d'être condamné aux galères. Hein. Bon, en tout cas, c'était des avenirs qui étaient vraiment peu envieux. Donc, on s'aperçoit que petit à petit, le passage du jugement religieux au jugement civil n'exclut pas la présence du fait religieux à l'intérieur du jugement. Hein, le blasphème intervient très très souvent. On verra d'ailleurs plus tard qu'il continue bien après. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on voit petit à petit se mettre en place ce qu'on appelle l'absolutisme royal. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, la monarchie prend une importance, peut-être un petit peu à la place de l'Église. L'Église a peut-être moins d'importance et c'est peut-être la monarchie qui a plus d'importance. Encore que, souvenons-nous toujours, du slogan, on va dire, de la royauté, qui était de dire une foi, une loi, un roi. On voit bien ici que les trois sont réunis. Le roi, naturellement, qui fait appliquer la loi, et la loi qui réprime aussi ce qui est de l'ordre du fait religieux. Donc on a tout ça, c'est-à-dire qu'on passe tout de même, on peut le dire, d'un fait religieux à un fait politique, pour reprendre le sens de ta question.
D'accord. La traque des sorcières se révèle intense et les méthodes sont d'une brutalité inouïe.
Catégorie de torture et plusieurs degrés pour chacune. Les plus utilisés étaient l'eau, les brodequins, l'extension ou encore l'estrapade. Cependant, les supplices ne se limitaient pas à ces quatre exemples. Les coups de fouet, les brûlures localisées, l'arrachage de parties saillantes, les contacts avec de la ferraille rougie, la pose sur le corps de plomb fondu, de poids ou d'huile bouillante furent monnaie courante. L'imagination des bourreaux était sans limite.
Il y eut également, à cette époque, des esprits plus libres qui vont remettre en cause cette chasse aux sorcières.
Oui, alors, je dirais qu'il y a toujours eu des esprits libres. Simplement, discrétion. Parce que la répression était absolument terrible. Si je vais un petit peu plus loin, au XVIIIe siècle, on se souvient de l'épisode, du triste épisode du Chevalier de la Barre. Hein, on est en 1766, de mémoire, et le Chevalier de la Barre, à Abbeville, près d'Amiens, refuse d'enlever son chapeau et de s'agenouiller devant une procession. Et à ce moment-là, il est arrêté, il est torturé, il est exécuté. C'était un esprit libre, c'était un noble qui était, on va dire, un esprit, oui, qui avait une certaine liberté de pensée, probablement même était-il athée, mais naturellement, il ne pouvait pas le déclarer comme ça. À l'époque, on ne pouvait pas le déclarer. Alors, il y avait des gens, effectivement, qui ont condamné les procès en sorcellerie, pour revenir au sens de ta question, à l'étranger. Mais en France, dans le royaume de France, c'est extrêmement compliqué de s'élever contre ça. Je rappelle simplement deux choses. D'une part, les témoignages restent anonymes, c'est-à-dire que la personne qui est accusée ne sait pas par qui, ni pourquoi, ni comment. On lui dit, voilà, il s'est passé telle chose. Bon, qui vous l'a dit ? On me l'a dit. Voilà. Donc, les témoins n'existent pas. Quant aux avocats, il n'y en a quasiment pas, parce qu'ils ont très peur d'être eux-mêmes assimilés aux accusés. Et donc, on se dise, mais à ce moment-là, celui-là, il est de connivence, donc celui-là, il est complice, donc celui-là, c'est aussi un sorcier, donc celui-là, on va le condamner, tout pareil.
On pense un peu au nom de la rose, là.
Exactement. Hein, on est tout à fait dans ce contexte-là. Tu parlais donc, effectivement, des esprits libres. Entre le 17... et le XVIIIe siècle, il y a un esprit libre qui est un curé, qui s'appelle Jean Mélier. Et Jean Mélier a écrit un testament, alors qui dans sa vie, alors il faudrait prendre le temps de raconter sa vie, ça serait compliqué, mais qui dans sa vie a eu beaucoup de démêlés avec sa hiérarchie. Mais il a rédigé un testament. Un testament où, au fond, il dit, il nie l'existence de Dieu. Voilà, il dit, voilà, je suis curé, mais on vous a bourré le mou, en gros, hein, c'est tout ça, c'est des histoires, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, et aussi, il faut détruire la religion. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle est aliénante, etc. Alors, imagine que c'est un véritable brûlot hein, qu'il publie là. Naturellement, il y a très peu de copies. Voltaire a une copie, mais Voltaire, qui est un être qu'on peut diversement apprécier, en l'occurrence, va édulcorer complètement la copie du testament. Et il va en faire, il va dire oui, mais enfin c'est une petite critique. Mélier n'est pas athée, il est déiste, mais simplement il est un peu critique, etc. Bon, et il faudra attendre D'Holbach. Je crois que c'est D'Holbach le premier qui a un autre philosophe qui a effectivement publié l'intégralité du testament que l'on trouve toujours en librairie pour les personnes intéressées. Et on a voilà la manifestation d'un esprit libre, mais qui n'a pas pu s'exprimer tant qu'il était vivant, et qui ensuite l'a fait dans son testament que nous avons gardé. Donc c'est pour dire que l'esprit, oui, il y avait des esprits libres, effectivement, il y en avait, c'est vrai, il y avait des gens qui avaient un sens critique très, très développé, mais difficile de l'exprimer.
Il fallait marcher sur des œufs.
Tout à fait. Je rappelle d'ailleurs, quand on revient un petit peu plus tôt au Moyen-Âge, je rappelle à ce prince qui va incendier l'abbaye de Maizé au cri de « Non est Deus ». Dieu n'existe pas. C'était quelque chose d'extraordinaire d'entendre ça à l'époque. Hein. Là, on est au XIIIe siècle. Hein, dans ce que j'ai... Eh bien, immédiatement, il a été excommunié. Excommunié. Alors, on n'a pas pu le mettre en prison parce qu'il avait, il était comte, il avait une position sociale qui le protégeait d'une certaine façon. Mais enfin, il a été excommunié aussitôt. Et puis, le pape lui a dit, écoute, tu vas reconstruire ce que tu as brûlé. Et après, je lèverai l'excommunication. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans un système où l'expression d'une pensée différente était extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible.
Et alors, quand cette chasse aux sorcières va-t-elle s'achever ?
Alors, la chasse aux sorcières, si tu veux, ça va se faire de façon très progressive. D'abord, comme je l'expliquais tout à l'heure, entre les sénéchaussés de province et le Parlement de Paris, il y avait déjà une différence de traitement. Les uns condamnés au bûcher, quand les autres épargnaient les accusés. À partir du XVIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, déjà, on va avoir des atténuations et beaucoup moins de procès. Les procès ont lieu surtout au XV, XVI et puis début du XVIIe siècle. Alors je regarde la date pour ne pas me tromper, en 1672, donc on est toujours au XVIIe siècle, Colbert demande aux tribunaux de ne plus reconnaître l'accusation de sorcellerie. Hein, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus traduire quelqu'un en justice au motif de sorcellerie. Ce qui est un pas, ce qui n'exclut pas que le temps que ça se mette en place, il va falloir des décennies et des décennies. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un décret ou que M. Colbert décide quelque chose qu'au fin fond des provinces, on va appliquer ce qu'a dit Colbert, que personne ne connaît par ailleurs. Bon. Donc, on a, et tout à l'heure j'évoquais le cas du chevalier de la Barre, on voit bien qu'on est là encore, c'est pas de la sorcellerie à proprement parler, mais enfin, on voit bien la prégnance de l'Église.
C'est le blasphème.
Qui, et voilà, c'est le blasphème. Hein, donc, on voit bien que l'Église est encore toute puissante qui va créer et occasionner des procès qui se termineront dramatiquement. Vous avez beaucoup insisté, nos deux lectrices ont beaucoup insisté sur l'usage de la torture et la question, ce qu'on appelait la question. Question ordinaire, question extraordinaire. Question ordinaire, c'est un petit peu de torture, extraordinaire, c'est beaucoup de torture. Bon. En 1780, donc 100 ans après, Louis XVI, le roi Louis XVI interdit l'usage de la torture comme étant un instrument permettant de faire avouer les gens. On bannit la torture. 80. Que s'est-il ?
Terminons cette émission avec ta propre conclusion.
Lié à une sorcellerie inventée et donc abandon de la peine de mort sur le bûcher, ne fut que justice rendue pour clore une affaire qui n'aurait jamais dû commencer. Il reste à deux femmes qui n'auraient jamais dû être humiliées. Il redonna sens à deux vies qui n'auraient jamais dû être brisées.
Merci beaucoup, Michel, Florence. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans cette émission. Je rappelle le titre de cette formidable enquête, Deux sorcières en bas Poitou, aux éditions La Geste, ouvrage que l'on peut trouver en librairie.
Merci de ton invitation.
Merci à vous et à bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine émission d'Impromptu littéraire.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
www.radio-g.fr.
De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5K, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas. La même plage et toi de dos.